Chapitre 48. Dans la petite foule qui le suivait, Richard avait vu des sœurs qu'il connaissait fort bien. Il y avait aussi des gens qu'il apercevait pour la première fois. Sans doute des habitants d'Aidindril venus participer à la renaissance de la forteresse du sorcier. Dans un lointain passé, beaucoup de citadins y travaillaient. L'idée que des inconnus entendent ce qu'il avait à dire n'enchantait pas le sorcier. Ces hommes et ces femmes étaient peut-être fiables, mais comment en être sûr? Et même s'ils étaient dignes de confiance, un mot malheureux suffirait à faire naître de folles rumeurs, voire à semer la panique en ville. Chase et Verna n'avaient aucune idée de la gravité de la situation. Pour eux, le monde était en paix. Pourquoi se seraient-ils méfiés des braves gens qui les entouraient? Devant Richard, très loin, d'autres personnes vaquaient à leurs occupations dans la vaste salle si mal éclairée qu'on distinguait à peine leurs visages. Après avoir jeté un coup d'œil en coin à Chase, le sorcier riva les yeux sur leurs accompagnateurs. L'esprit vif, le colosse, capta le message. « Mes amis, dit-il en se tournant vers les sœurs et les citadins, si vous alliez dire à tout le monde qu'il n'y a pas besoin de s'alarmer, puis vérifier que les sorts de protection sont réarmés, Verna et moi nous allons nous occuper du sorcier. » Les sœurs offrirent de rester si c'était nécessaire, et quelques civils les imitèrent, puis tout ce petit monde partit dans une myriade de directions. « Merci, » dit Richard quand il ne resta plus que son vieil ami, Rachel et Verna. La longue salle, se souvint-il, était une sorte de moyeu central donnant sur une multitude de points stratégiques des entrailles de la forteresse. En plus de fournir de la lumière, les ouvertures qu'on distinguait en haut d'un des murs permettaient à ce secteur de faire office de cheminée d'aération, un équipement indispensable dans des sous-sols. De petits oiseaux étaient perchés sur ces évents pour profiter de l'air frais et de la lumière. Sur la droite, des marches taillées à même la paroi conduisaient à une étroite promenade. Le long de ce corridor, on trouvait des salles et des entrées de couloirs donnant accès à tous les niveaux de la forteresse. Après un long séjour dans les terres noires, sans parler de la traversée du sanctuaire des âmes, être de retour ici faisait une étrange impression. Le choc de revoir si soudainement la civilisation, sans doute. D'autant plus que Richard avait bien cru lui avoir dit adieu pour toujours. Bien entendu, la forteresse le faisait penser à Zed, et ça ravivait son chagrin. Idéalement, être revenu ici aurait dû rassurer Richard, enfin en sécurité après une longue errance. Dans le même ordre d'idées, savoir qu'Alan, tout près d'Aidindril et du palais des Inquisitrices, le foyer de son enfance, aurait dû être réconfortant. Mais tant que Sulakhan rôderait dans le royaume des vivants, il n'y aurait de sécurité pour personne en ce monde. Une question tournait en boucle dans l'esprit de Richard. Combien de temps avait duré le voyage depuis Stroïza? Même quand il verrait la lune, ce serait difficile à dire parce qu'il n'aurait pas de point de comparaison. Sous le ciel plombé des terres noires, on ne voyait presque jamais l'astre nocturne. Même en oubliant son séjour dans l'infini du royaume des morts où le temps n'existait pas, trop de choses étaient arrivées pour que Richard sache précisément depuis quand Anis Arc et Sulakhan, après avoir franchi les portes du troisième royaume, étaient partis vers le sud-ouest à la tête de leur horde de demi-humains. S'il avait perdu le compte des jours, Richard avait une certitude. Le palais du peuple était menacé. Avide de régner sur l'empire d'Aran, Anis Arc avait besoin de ce symbole du pouvoir. Au fond, si son plan était incroyablement complexe, son objectif se révélait d'une affligeante banalité. Renverser la maison Râle et prendre sa place, voilà tout ce qu'il visait. Bien qu'il eût des desseins plus sombres et plus ambitieux, Sulakhan aidait activement l'évêque. Les deux hommes avaient besoin l'un de l'autre, chacun étant persuadé de manipuler son complice. Mais Sulakhan, selon Richard, n'était pas du genre à se laisser conduire docilement comme un taureau qui a un anneau dans les naseaux, et lui aussi désirait ardemment conquérir le palais du peuple. Était-ce lié au pouvoir de Regula, une force du royaume des morts étrangère au monde des vivants? Cette force alimentait les prophéties qui menaçaient d'étouffer la vie. En un sens, c'était l'équivalent de la souillure qui tuait lentement Richard. Depuis des millénaires, Regula assassinait à petit feu le monde des vivants. C'était aussi une brèche dans le voile et un passage entre les mondes. Sulakhan avait besoin d'une telle passerelle, et ça expliquait sûrement son intérêt pour le palais du peuple. Jouant pour son propre compte, il instrumentalisait Anis Ark, qui croyait en avoir fait sa marionnette. Verna, dit Kalan en prenant le bras de la dame abbesse, peux-tu nous trouver quelque chose à manger? Si on ne les nourrit pas, nos deux mordecites finiront par me faire cuire au courbouillon avant de me dévorer. La plaisanterie dissipa quelque peu l'humeur maussade de Verna, qui jeta un coup d'œil dubitatif aux femmes en rouge qui semblaient effectivement prêtes à mordre à la moindre menace. Richard avait besoin de nourriture pour reconstituer ses forces. Les cinq voyageurs étaient affamés. Oui, bien entendu. Sur ces mots, Verna se dirigea d'un pas vif vers des hommes qui déchargeaient du bois de chauffe d'une charrette non loin de là. Et ils écoutèrent les ordres de la dame abbesse, puis partirent les exécuter.
« Richard, demanda Chase, que puis-je faire pour t'aider? De quoi as-tu besoin ?»«
Si seulement je savais. »
« Dis-moi au moins où tu veux aller. »
« Au palais du peuple et le plus vite possible. Pour ça, la sleeve sera parfaite. »«
Pourquoi cette urgence ?»«
Par le passé, Sulakhan a recouru à la magie noire. »«
La magie noire ?»
répéta Verna en rejoignant le petit groupe. « De quoi parles-tu exactement ?» Richard eut un long soupir. La salle de la sleeve n'était plus très loin, il n'aurait pas le temps de tout raconter, et encore moins d'exposer son plan et ses ramifications. « Je n'aurai pas assez de temps pour tout vous dire, mais voici quand même quelques informations que vous devez connaître. La magie noire de Sulakhan, sa sorcellerie ou ses pouvoirs occultes si vous préférez, ressemble à nos deux formes de magie, mais elle est pourtant différente.
« En quoi ?»
coupa Verna. « C'est la contrepartie du don, ce qui assure l'équilibre, l'autre face du don, pourrait-on dire, sa face sombre. »
La magie soustractive est déjà la face sombre de la magie additive.
Devant tant de complexité, Richard fit la grimace. Comment expliquer ça en quelques mots?
Il y a différentes strates d'équilibre,
dit Nietzsche volant au secours de son ami. La magie soustractive appartient au royaume des morts, tandis que l'additive s'épanouit dans le monde des vivants. Elles s'équilibrent, c'est vrai, mais elles sont les manifestations du même don. Quand on y regarde plus près, elles se combinent comme peuvent se combiner un pouce et quatre doigts, par exemple. Pour simplifier, disons que la magie additive est le pouce, la magie soustractive étant les doigts.
Dans ce cas, que sont ces pouvoirs occultes?
Demanda Rachel, visiblement fascinée par le sujet.
La contrepartie du don, son contraire et son opposé. La magie noire est distincte de notre pouvoir. Oui, c'est le mot. Distincte, même si elle lui ressemble. Comme la main droite est distincte de la gauche, mais toutes deux ont de la force et peuvent accomplir des tâches compliquées.
Nietzsche entrelaça les doigts de ses deux mains.
Chaque main est différente, et les deux ont de la force, mais si elles travaillent ensemble, elles sont bien plus puissantes.
Richard n'eut pas le sentiment que Verna comprenait. Tant pis, il fallait aller de l'avant. Comme certains sorciers de son temps, Sulakhan contrôle les deux pouvoirs, le don et sa contrepartie. À l'époque, ses forces combinées ont servi à transformer des gens en armes. L'empereur a réussi des exploits qu'on pensait irréalisables.
« Tu as un exemple ?»
demanda Chase, fasciné. « Eh bien, c'est lui qui a créé ceux qui marchent dans les rêves. » Jagang descendait de ces premiers hommes capables de pénétrer dans les songes des autres. Avec l'aide de ses sorciers, Sulakhan a aussi créé une armée de demi-humains. Chase posa une main sur le bras de Richard.
« Des demi-humains ? » ?»«
Des gens qui n'ont plus d'âme, oui. »«
Et pourquoi avoir créé de tels monstres ?»«
Parce qu'ils vivent très longtemps. Un peu comme les sœurs au palais des prophètes. Cette armée devait attendre ici que l'empereur revienne du royaume des morts. » »«
Je ne vois pas comment on peut voler l'âme de quelqu'un, »
dit Verna.
« Le créateur... »
Richard eut un geste impatient. Ce n'était pas le moment d'entrer dans des controverses théologiques.
Le comment ne nous intéresse pas pour l'instant, Verna. C'est vraiment une histoire très longue et très compliquée.
En revanche, ce que vous devez savoir, c'est que les demi-humains, sans leur âme, sont devenus fous.
Voilà qui ne me surprend pas.
Avides de s'en approprier une, ils se sont mis à attaquer les gens pour les dévorer vivants, parce qu'ils croient pouvoir voler leur âme. Ils traquent les vivants, les vrais, afin de les manger.
C'est du délire,
s'indigna Verna.
Essaie de leur dire pendant qu'ils sont en train de déchiqueter ta chair avec leurs dents, souffla Callan.
Un texte de cette époque affirme que les demi-humains sont la mort incarnée et dotés de dents, des morts souillées par le mal.
Si tu le dis, mais si ces demi-humains ont à ce point faim de nos âmes, pourquoi n'avons-nous jamais vu le bout de leur nez? Qu'attendaient-ils pour attaquer?
Une question qui met dans le mille, admit Richard. Au début des grandes guerres, Sulakan a lancé ses hordes de demi-humains sur le Nouveau Monde, mais nos ancêtres ont réussi à les enfermer derrière une haute muraille, dans une région désolée de Dara nommée les Terres Noires. Du coup, les monstres de l'Empereur furent éliminés de la suite du conflit. Provisoirement en tout cas, puisque les sorciers de ce temps n'avaient pas le pouvoir requis pour en finir avec eux. Grâce à cette manœuvre, la menace a été différée.
« Et aujourd'hui, c'est sur nous que ça tombe, » devina Chase.
« Oui. Dans leur prison, les demi-humains ont attendu une occasion de s'évader. Récemment, la haute muraille a faibli. Sulakan est revenu de notre côté du voile et ses guerriers sans âme dévastent le monde.
« Ce n'est pas tout, » dit Callan. « L'empereur et certains de ses sbires ont le pouvoir de ranimer les morts, qui leur obéissent alors aveuglément. »
« C'est sérieux tout ça ?»
demanda Chase qui n'en croyait pas ses oreilles. Richard désigna l'arche d'entrée des catacombes.
C'est probablement pour ça que cette crypte géante fut scellée. Sulakan pourrait ranimer une grande partie de ses morts, tous ceux qui sont encore entiers en tout cas. Condamner les catacombes était une mesure défensive.
Les morts animés sont très difficiles à arrêter, prévint Nietzsche. En particulier, le don ne peut pas grand-chose contre eux.
Parce que la magie noire les a ramenés à la vie?
Avança Rachel. Nietzsche lui sourit.
Très bien raisonné.
Mais une épée doit pouvoir les tailler en pièces, marmonna Chase tandis que le petit groupe s'engageait dans un tunnel au mur en granit.
Hélas non, répondit Richard. Contre eux, deux armes seulement sont efficaces, le feu et mon épée.
Mais si suffisamment d'hommes...
Non, mon ami, même un régiment de la première phalange sera vite débordé. Contre des ennemis qui ne sont pas vraiment vivants, les armes traditionnelles ont très peu d'effet. La magie noire anime ces cadavres, et elle leur confère une force incroyable. J'en ai vu plusieurs continuer à avancer tranquillement avec la poitrine traversée par plusieurs lames.
Chase, même les chiens à cœur étaient des adversaires moins redoutables, c'est tout dire.
Le colosse grogna de mécontentement. Sulakan est résolu à achever ce qu'il a commencé il y a 3000 ans. Son séjour dans le royaume des morts ne l'a pas affecté, et il l'a mis à profit pour peaufiner son plan et recruter des partisans parmi les esprits. Ces morts ranimés et ces demi-humains, en ce moment même, marchent sur le palais du peuple. Et ce n'est que le début de la catastrophe. Anis Ark, un sorcier qui contrôle lui aussi la magie noire, est l'allié de Sulakan. J'ignore combien de gens ces monstres tuent sur leur passage, mais je dois gagner le palais et faire en sorte qu'ils ne tombent pas entre leurs mains.
« C'est tout ?» plaisanta Chase. « Te connaissant, ce ne devrait pas être trop difficile. »«
C'est plus compliqué cette fois. »«
On peut savoir en quoi ?»
demanda Verna.
« Le pouvoir d'Orden est impliqué. Mais la salle de la Slife n'est pas loin, et nous allons devoir partir. »
Folle de frustration, Verna leva les bras au ciel.
« Richard ! » Même si tout ce que tu dis est vrai, tu ne peux pas espérer résoudre un problème qui a dépassé les sorciers de jadis. Je te rappelle que leur pouvoir était largement supérieur au nôtre.
Non, c'est faisable. Pour ça, je devrais en finir avec les prophéties.
En claquant des doigts ?
Railla la dame abbesse.
C'est bien ce que je dis,
fit Chase.
Rien de très compliqué. Ravi que tu aies la situation en main, Richard.
Malgré son angoisse, le sorcier ne put s'empêcher de sourire. Quand il atteignit une sorte de place d'où partait une série de couloirs, il fit signe à ses compagnons de s'arrêter. Un de ces passages, se souvint-il, permettait de traverser les champs de force et de rejoindre la tour où se trouvait la Slife.
« Verna, avant de partir, je dois te transmettre un message très important. De la part de Warren. »
Verna en oublia d'avoir l'air furieuse.
« Comment ça ?» De Warren.
Richard baissa les yeux et glissa les mains dans ses poches. Ton mari m'a demandé de te dire qu'il t'aime, qu'il ne cessera jamais et qu'il est en paix.
Comment sais-tu ça? Warren est mort. Il n'a pas pu te confier un message. Tu te trompes parce que j'étais mort aussi. Enfin, provisoirement. C'est là que je l'ai vu.
Verna fronça les sourcils.
Tu étais mort? Que racontes-tu?
J'ai été assassiné,
expliqua Callan, histoire d'accélérer un peu les choses.
Et pendant que j'étais morte,
toi aussi?
Lança Verna incrédule.
Oui, moi aussi. Nietzsche a d'abord soigné mon corps, puis elle a arrêté le cœur de Richard pour qu'il puisse traverser le voile. Dans le royaume des morts, il m'a arraché aux griffes de démons et renvoyé dans le monde des vivants. Nous avons bien cru l'avoir perdu pour toujours.
Horrifié, Verna se tourna vers Nietzsche.
Tu as arrêté le cœur de Richard? 500 ans avant sa naissance, nous savions qu'il serait notre seul espoir, et tu l'as tué? Quelle folie te dominait!
J'ai fait ce qu'il me demandait, c'est tout.
Il voulait que tu le tues, et tu lui as donné satisfaction, alors que les prophéties l'appellent le caillou dans la mare.
Nietzsche parut quelque peu mal à l'aise.
Oui, si je n'avais rien fait, il se serait suicidé.
L'ancienne maîtresse de la mort parvint à ne pas flancher sous le regard d'une femme qui n'était plus son amie, mais la dame abbesse des Sœurs de la Lumière.
Si tu avais été là, tu aurais compris.
Le souffle coupé, Verna tenta en vain de poser une autre question. De Garlas, elle se tourna vers Richard.
« Puisque tu es mort, comment peux-tu être vivant ?»«
La mort n'est plus ce qu'elle était, »
répondit le sorcier, conscient que sa formulation avait de quoi choquer.
« C'est une partie du problème que nous devons résoudre. »«
Comment es-tu revenu à la vie ?»
insista Verna.
« C'est impossible !»
Kara a accepté d'être une passerelle vivante, et elle m'a ramené de ce côté du voile.
« Mais elle est mariée avec Ben et... »
Ben est mort au combat.
Verna lutta contre les larmes qui perlaient à ses paupières.
Quand tu étais mort, tu as vu Warren?
Oui.
Il veut que tu saches qu'il t'aime et qu'il te demande de ne pas t'inquiéter pour son esprit.
Une main sur le cœur, Verna détourna la tête un moment.
Créateur bien-aimé, je ne comprends pas. Plus rien n'a de sens. Le monde entier tombe en ruine.
Richard prit son ami par les épaules.
C'est vrai, et c'est pour ça que je dois faire vite. Il faut que je l'empêche de s'écrouler.